sur ma corolle. Quand Renoncule est arrivé, alors tous deux on bâtit folle et l'on s'effeuille nos pensées. Mais les pensées, ça prime vert pour de fines fleurs de lys. Alors tous deux on conifère où l'on boule de gui. Les belles de nuit sont écloses, les aubépines en fleurs, l'aube à portefeuilles et roses, la rosée de drôle d'odeur, la rosée de drôle d'odeur. Le décolleté de ta collerette fit la perte de ses effets, mais au matin la...
Mais tu se marres dans les castes. Nos cerveaux et sagit à l'envie pour nous défaire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors, alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence, avec au programme aujourd'hui deux parties. La première sera consacrée à un entretien réalisé avec Alexandre Labruf à propos de son dernier livre qui est paru chez Vertical et qui s'intitule Cold Case. C'est un livre que j'ai adoré. Voilà, et en seconde partie d'émission, nous retrouverons Gérard Guégan pour sa chronique qui sera aujourd'hui poétique, puisqu'il nous parlera des œuvres de Gérard Arcegel, donc le premier volume paru aux éditions Maitrey, et du livre de poésie de Jérôme Leroy qui s'intitule « Et des dizaines d'étés dorés » qui est paru à la table ronde. Très beau titre, très beau livre. Voilà pour le programme du jour. On retrouve de ce pas Alexandre Labruf pour « Cold Case » paru chez Vertical.
Toujours pour
Radio Libertaire 89,4 MHz. Et c'est le grand plaisir de retrouver Alexandre Labruf pour son dernier livre qui est paru aux éditions Vertical et qui s'intitule Cold Case. Jeu de mots, mais il y a beaucoup de jeux de mots dans ce livre, on sera amené à en parler. Et en tout cas, moi, ça a été un véritable plaisir de lecture parce que déjà, c'est captivant à lire, parce qu'il y a le jeu avec les mots, comme je l'évoquais il y a quelques instants. Parce qu'il y a les voyages dans les différentes années, les différentes dates, et je pense qu'au niveau construction, ça a dû être quelque chose d'assez compliqué à faire. Et puis parce qu'on poursuit d'une certaine manière, on avait avec Wonderland évoqué la question de la fratrie, et là on est toujours sur un sujet, sur le thème de la famille, et qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire familiale ? Qu'est-ce que c'est que le conte de s'aligner ? On va parler de tout ça, mais d'abord, Alexandre Labruf, merci. Et comment est né ce livre ? Comment est né aussi déjà son sujet et ensuite l'idée de sa construction ?
Merci Alexandrine de me recevoir. Au commencement du livre, il y a déjà une légende familiale. Et la légende familiale, c'est un matin, Kim Min-kyung, ma compagne, qui me dit... en tartinant sa biscotte, alors qu'elle est, je suis en train de prendre mon café, de me réveiller doucement, elle me dit, comme si de rien n'était, j'ai un oncle congelé. Au fait, j'ai un oncle congelé. Et ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, et jamais elle avait parlé de cet oncle congelé, et du coup, ça, j'ai cru mal comprendre, j'ai fait répéter, et je me suis dit, mais, et puis, elle a continué, elle a dit, j'ai un oncle congelé, si mon père est malade mentalement, alors ça, c'est, c'est moins drôle, mais si mon père est malade mentalement, c'est parce qu'il a vu son frère mourir congelé à Toronto dans les années 70. Et là, je me suis dit, non, mais un oncle congelé, je peux pas passer à côté de la décongélation de cet oncle, et j'ai voulu tout de suite creuser, pas forcément tout de suite, mais quelques jours après, j'ai percuté que je devais... voilà, décongeler cet oncle, désosser cette légende et partir à la recherche de cette mémoire en fait qui familiale de ma compagne qui était complètement entourée de silence. Ah, du coup, c'est parti au départ de ce mot-là. J'ai un oncle congelé. Et je me suis dit, derrière forcément un oncle congelé, tout le monde n'a pas un oncle congelé.
Non.
Du coup, ça a éveillé, plus qu'éveillé ma curiosité, ça a titillé ma curiosité. J'ai enquêté, mais avec trois axes, en fait. D'abord, je me suis dit, mais attends, c'est quoi, de quoi tu me parles? Pourquoi, c'est quoi, en fait? Alors, elle me dit, mon oncle est parti à Toronto dans les années 70 avec ses frères, ses deux frères. Et il était interné à l'hôpital psychiatrique, on ne sait pas pourquoi. Il y a une histoire qui raconte cet internement, mais il a fui. On ne sait pas pourquoi cet hôpital, et il a sauté à travers une fenêtre. Il s'est réfugié dans un local technique qui n'était pas chauffé. On l'a retrouvé le lendemain, et c'est ce que dit la légende familiale. Mmh. On l'a retrouvé le lendemain, congelé, mort de froid. Et je me suis dit non. Et je lui ai dit tout de suite non, non. Mais je savais pas, en fait. Non, c'est pas ça, cette histoire. C'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est pas ça. Il est pas mort comme ça. C'est pas vrai. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être mon côté chamanique. Et je lui ai dit, et c'est pas vrai. Ton père, alors ça, c'est mon côté psy, détraqué. Parce que né de parents psy, hippie, forcément, de parents psy, hippie, naissent des enfants psy ou anti-psy, mais un peu détraqué. Et du coup, je lui ai dit non. Ton père, il n'a pas déraillé pour ça. Et il n'a pas déraillé parce qu'il a vu la mort de quelqu'un, d'un proche, ne peut pas expliquer son déraillement mental. Peut-être que ça l'a accéléré, mais ça ne l'explique pas. Et du coup, je voulais lui prouver, je me suis mis comme un aventurier à la recherche de la vérité, avec un grand V. comme le mot vengeance, comme le mot, comme le mot victoire. Et du coup, c'est ça qui a enclenché le livre.
Alors, il y a différents niveaux, entre guillemets, de recherche de cette vérité, Alexandre Labruf, dans Cold Case, donc paru chez Vertical. Il y a l'exploration déjà du récit familial qui va constituer un peu la première partie du livre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on se raconte dans cette famille, qu'est-ce qu'on s'y dit, qu'est-ce qu'on évoque de cet oncle et puis de cette lignée, parce que l'oncle est un peu la partie émergée de l'iceberg, en fait. Et la première partie va tourner autour de ça.
Et ensuite, ben, on verra, il y aura une autre recherche.
Oui, la première partie, elle est vraiment, comme je disais avant, pour être plus précis, c'est divisé et structuré en trois axes, même si c'est une pluie de confettis en termes de date, en fait, parce que c'est complètement déstructuré en termes de date, comme d'ailleurs...
comme la mémoire.
Comme la mémoire, à l'image du surgissement des souvenirs qui apparaissent, on ne sait pas pourquoi et comment, de manière complètement aléatoire. Et du coup, premier axe, c'est la mémoire. Et je me suis dit, je vais d'abord travailler la mémoire. C'est-à-dire à travers des interviews, plus que des interviews, des entretiens avec Min-kyung, des entretiens, même musclés,
je vais
sa mémoire. La deuxième partie, je juste l'évoque, c'était la partie journalistique où je me suis dit, la mémoire ne suffira pas, il faut que à Toronto, il est mort à Toronto dans les années 70, forcément un journal ou un journaliste friand de faits divers a dû faire un filet ou un entrefilet. Et la troisième partie, elle est beaucoup plus surnaturelle, c'était pour parler aux fantômes, pour parler à cet oncle mort. Mais alors, si on revient sur la mémoire, alors oui, j'ai été contre nature, mais c'était aussi au regard de ma propre famille de psy, de parents psy, hippies, qui prônent la méthode douce. Moi, je suis allé à revers de cette méthode douce et en proposant à Min-kyung des entretiens musclés. À chaque fois, ça se terminait musclé, c'est-à-dire c'était le verbe comme taser, cette expression que j'ai dans le livre, comme un flic en disant mais non, qu'est-ce que tu caches. Donc, je voulais tout savoir sur cette tante. Donc les frères de son père, les sœurs de son père, son grand-père, sa mère, je l'ai interrogé. Et je pensais faire surgir des images aussi sur son oncle, mais sur l'oncle, rien ne surgit en fait. Et en faisant ça, ce que je cartographie, c'est une douleur, une succession de douleurs et de crashs familiaux en fait. Pas seulement l'oncle congelé.
alors c'est ça qui est intéressant, c'est les différents, j'allais dire, les différents niveaux de lecture, un peu comme des poupées russes. Alors bien sûr, il y a l'histoire de votre compagne, il y a l'histoire de cet oncle, il y a l'histoire de la famille, l'histoire du grand-père, avec cette ces mécanismes de répétition qu'on va évoquer dans quelques instants, avec cette mécanique de l'exil, de ce que ça peut déclencher. Et puis, ça va au-delà, parce que c'est aussi l'histoire de la Corée, du rapport à la maladie mentale, du rapport à l'histoire, du rapport à l'invasion par le Japon. Enfin, il y a énormément, énormément de choses. Et moi, c'est ça qui fait aussi l'intérêt pour le livre et la richesse de lecture, c'est qu'on navigue dans plein de niveaux différents. Alors, on va commencer par le niveau familial, parce que effectivement, en allant à la recherche de cet oncle qui va apparaître en fait en creux, parce qu'en fait, il n'existe nulle part, il n'existe pas dans les récits familiaux. Il n'y a pas de photo de lui, on n'en parle pas, mais on va découvrir les autres membres de la famille, que ce soit le père, le grand-père, et on va découvrir cette mécanique qui amenait donc les Coréens à partir en exil, et cette répétition de l'exil, ce que ça a pu avoir comme conséquence, jusqu'au fait de mourir à Toronto, hein, une nuit glacée, après s'être évadé d'un hôpital psychiatrique.
Alors, c'est vrai que alors, si cette enquête avait pour ambition de décongeler l'oncle et de faire surgir ce qui s'était passé, en fait, je n'y arrive pas tout de suite. Et ce qui surgit, c'est les drames, une succession de drames en fait familiaux à travers effectivement l'histoire de la Corée. Et ça m'a, et j'ai compris, mais en l'écrivant, que en fait, j'allais, sans vouloir me faire historien, j'allais montrer le revers du miracle économique industriel coréen, en fait. D'abord, comment naît la Corée? La Corée surgit dans l'espace mondial et sort de la misère, donc sortant de la colonisation japonaise, en fait, elle va sortir petit à petit de la misère, mais avec une voie dure, autoritaire, de libéralisation, forcenée. Ce que la famille, et ce que je mets aussi à jour, donc libéralisation, dictature, sous couvert de libéralisation, d'ouverture au marché, de prospérité, les dictatures s'enchaînent entre 45 et même, on peut dire même maintenant, même si c'est hyper doux comme dictature, enfin doux, il n'y a pas de dictature douce, mais on peut dire que c'est un régime qui est fascisant aujourd'hui, en fait. Et c'est ce que le livre aussi montre, une plongée non seulement effectivement dans ce revers et dans les tabous de la société coréenne, parce qu'en fait ce que crée cette société, cette marche forcée vers le libéralisme forcené, en fait, à industrialisation, travail 65 heures par semaine, pas de contestation, pas de protestation, on éteint toute dissidence, c'est d'abord effectivement des exils, les Coréens fuient, pas forcément en masse, parce qu'en fait l'exil coûte cher à l'époque et il fallait vraiment mettre de l'argent de côté, en fait, donc c'est un exil plutôt d'élite qui part au Canada, aux États-Unis. D'abord, c'est les deux destinations principales, et la famille de Kim, de ma compagne, elle est partie à Toronto, enfin les fils,
oui,
c'est le père qui a fait partir les fils, en disant les femmes n'ont de toutes les façons pas le droit de parler, parce que c'est aussi une société, c'est ce que met à jour le livre, c'est une société patriarcale, en fait. Et confucianiste, néo-confucianiste. Donc, les fils, on vous envoie pour un avenir meilleur et pour échapper aux dictatures, mais aussi à la menace de la guerre du Vietnam, parce que la Corée, aussi avec son américanisation, en fait, et la tutelle de l'Amérique, elle a participé à la Corée, à la guerre du Vietnam, en fait. Donc, pour fuir les dictatures, la misère, le libéralisme forcené, la non-contestation possible, pour faire fortune, en fait, et mentalement et économiquement, le père envoie ses fils, donc le père de ma compagne, dont le père de ma compagne, au Canada, à Toronto. Et en fait, il s'avère que au bout d'un an, deux ans, c'est un exil raté, puisqu'il meurt dans des conditions plus que mystérieuses, et le père de ma compagne, donc son frère, va rentrer précipitamment en Corée du Sud. Et ce que montre aussi le livre, en fait, c'est ce que je voulais parler, c'est aussi la folie. La folie qui crée, alors, parce que moi, je voulais l'expliquer, ma vérité, elle était déjà orientée, je voulais expliquer cette folie par le libéralisme, oui, en fait, oui. Et par ce que ça crée, pardon. ce que ça génère et ça génère une prolifération des maladies mentales en fait et plus ça prolifère plus on le cache.
Oui.
Les Coréens, la possibilité, le père de, on est allé en visite, on a visité le père de ma compagne en fait qui était lui dans un hôpital psychiatrique. On est allé en 2000, ben, dans la, en, il y a 4-5 ans en fait et il était caché au fin fond de la montagne dans un institut en uniforme jaune où qui concentrait il y avait plus d'une centaine de personnes en fait. Ça c'est caché, c'est une honte. Donc je voulais montrer aussi la folie. Il y a aussi un fil de suicide en fait, c'est-à-dire tout ce que ça génère comme déraillement, cette société-là en fait coréenne qu'on pourrait actuellement, la Corée du Sud est un mirage. C'est un mirage parce que on pense qu'à pop, on pense cinéma, et du coup, on pense pas au revers de ce miracle industriel et économique. Et du coup, par exemple, le taux de suicide, c'est le taux de suicide en Corée du Sud actuellement, là, de nos jours, c'est 25 suicidés pour 100 000 habitants. Alors, on dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi le suicide on compte comme ça? Pour pas montrer les vrais chiffres. Ça fait 35. Personnes qui se tuent chaque jour en Corée du Sud. Une toutes les 40 minutes. Et je voulais aussi montrer, ça m'intéressait de rentrer dans ça. Mais de manière dramatique, mais aussi de manière absurde. Et montrer aussi que cette société rationnelle, qui est poussée vers le libéralisme, est infusée aussi par de l'irrationnel comme le chamanisme. Et les passages un peu drôles du livre, c'est effectivement tous les passages un peu chamaniques.
On va en parler. Pour revenir un petit peu sur cette approche de la maladie mentale, ce qui apparaît aussi, Alexandre Labruve, dans Cold Case, c'est que. Il y avait une non-prise en compte du malaise et de la maladie mentale, puisque les asiles n'existaient même pas, les gens n'étaient pas soignés, ils sont de facture assez récente. Et effectivement, vous évoquez le fait qu'avec cette montée du libéralisme, est apparue une épidémie de suicide. C'était le moyen de s'échapper. On a évoqué l'exil pour aller au Canada, mais il y a aussi cet exil de la pensée, cet exil de la norme que les personnages de Cold Case vont connaître.
Et puis que Kim Min-kyung, en fuyant la Corée du Sud, puisque c'est son terme, elle part de la Corée du Sud pour faire ses études au Canada et pour ensuite se retrouver en Allemagne et ensuite en France. Et ce qu'elle fuit, c'est une société normée, ultra normée. Mais c'est aussi un chaman qu'elle va rencontrer dans la rue qui lui dit « si tu restes en Corée, tu meurs ». Donc elle est partie aussi elle savait très bien que son état d'esprit ne correspondait pas forcément, tout en le cachant à son père, ne correspondait pas à ses aspirations, et en partant au Canada, sans le savoir, elle efface les traces d'un exil raté, ou d'exil raté de son père, de son nom et de ses oncles, en fait, sans le savoir. Du coup, c'est aussi ce que je voulais en creux montrer.
Alors,
la folie, elle est cachée. C'est une honte en Corée du Sud. Le père, en fait, son père, c'est aussi mystérieux. Il fallait surtout pas en parler. Quand on se rencontre avec Min-kyung, elle me dit que son père est dans un temple. Le mot hôpital psychiatrique apparaît très longtemps après notre rencontre. Et en fait, il est pas dans un temple. Et sa mère lui disait la même chose quand elle était petite. Mon père est dans un temple. En fait, non. Il a travaillé pour un grand groupe coréen, sans doute avec un rythme effréné, un groupe pétrolier au sud de la Corée du Sud. Et brusquement, ça c'est au retour du Canada, il travaille pour un grand groupe, il se marie. A priori, tout va bien, et il va dérailler petit à petit, il va claquer la porte de son groupe, il va parler au plafond, il va parler au plancher, il va nettoyer le sol de la rue, parce qu'il trouve que c'est sale, il va ramasser les déchets de la rue, enfin, et il va commencer petit à petit à dérailler. Donc, c'est une hypothèse, en fait, que cette société et ce carcan confucianiste et en même temps libéral c'est l'hypothèse, a pu aussi jouer dans son déraillement. Et son déraillement qu'on a essayé de soigner à coup de chamanisme. Il y a des séances chamaniques, j'en raconte que deux dans le livre, où on va essayer de désenvoûter son père en l'entourant de chamans et en faisant venir des chamans qui vont brûler, qui vont dire à la famille « Attendez, donnez-moi votre culotte, donnez-moi votre soutien-gorge, je vais tout brûler, et il ira mieux, on va tout brûler, on met ça dans un sac plastique, on chante, on fait sonner des tambours et votre père sera guéri. » Et en fait, non.
Voilà. 처음 본 순간 오랫동안 면도가 바뀌지 않는 아주 고개 사이 좋은 그룹이죠.
c'est cette confrontation entre un monde qu'on évoquait très normé, très rationnel, très dans une logique de profit et de production, et ce côté complètement ésotérique, ancien, chamanique, qui c'est vraiment deux mondes qui se confrontent et qui créent une faille.
Oui, qui crée une faille. Parfois, c'est peut-être une soupape, en fait. Parfois, je me dis que le chamanisme, alors, on peut rencontrer des charlatans, et c'est ce que j'ai essayé de vérifier en allant parler à un chaman pour faire parler, pour faire cracher le fantôme et pour faire parler l'oncle mort. Mais en fait, ça peut créer une soupape. Alors, en fait, la Corée du Sud, c'est aussi gangréné, entre guillemets, par des religions folles, comme plus que le, alors, il y a l'évangélisme, en fait, est très présent en Corée du Sud, à l'image des États-Unis, en fait, du modèle des États-Unis. Et ça crée la secte Moon, où on se marie dans des stades, quand t'as 20 000, ça crée des dérives sectaires incroyables, en fait. Catholicisme, protestantisme, un peu de bouddhisme et tout ça infusé par chamanisme, en fait. Mais chamanisme où effectivement on peut, parce qu'on a un rhume, aller voir un chaman qui va faire une séance pour désenvoûter le cerveau ou alors désenvoûter la gorge, en fait, ou le nez.
Oui, et quand on arrange un mariage, qu'on essaye de colmater les choses, on offre une montagne.
Voilà, ça c'est la famille de, alors je sais pas si dans toutes les familles coréennes, en tout cas c'est dans la famille de la monnaie d'échange dans la famille de Min-kyung, de ma compagne, c'est par exemple une de ses tantes s'est mariée dans les années 60, en échange la famille a hérité d'une montagne. Kim, elle a hérité de son père, elle a hérité d'une montagne en fait. La montagne est une monnaie d'échange. Mais d'ailleurs, elle veut pas, elle est au milieu de nulle part cette montagne. En fait, le jeu d'ailleurs, je l'ai pas dit dans le livre, mais le jeu pour certains, mais pas pour ma compagne, qui a su garder cette montagne, elle veut qu'elle soit au milieu de nulle part. Le jeu, c'est qu'une autoroute la traverse. Parce que si une autoroute traverse votre montagne, le gouvernement va allier les millions et les milliards pour vous dédommager, pour vous acheter votre montagne. Mais en fait, oui, c'est la monnaie d'échange de la famille, en fait. Elle a hérité. D'ailleurs, j'ai une formule dans le livre, en fait, Min-kyung, elle a hérité de son père et de la folie de son père. La folie de son père a accouché d'une montagne.
Alors, on va parler justement de l'écriture du livre, Alexandre Labruf, parce que c'est un vrai plaisir de lire Cold Case, donc paru aux éditions Verticales, parce qu'il y a tous ces jeux sur les mots par rapport au problème de compréhension de la langue française de votre compagne, qui déforme et qui crée des expressions absolument géniales.
Alors, au départ du livre, il y a une double ambition, c'est travailler la langue, mais avant, c'est aussi travailler la forme. Alors, parlons de la forme d'abord, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au départ, je voulais aussi mélanger globalement les tons, les dates, les genres, que ce soit du drame, que ce soit de la comédie, que ce soit du fantastique, que ce soit du surnaturel, que ce soit du polar, que ce soit de l'espionnage. J'avais cette ambition-là, de manière complètement déstructurée, comme des souvenirs apparaissent, soit tristes, soit comiques, soit avec une teinte un peu étrange ou un
poétique, souvenir qu'on comprend pas, en
fait. Comment ?
Très poétique aussi.
Oui, je voulais les genres. Il y a effectivement aussi le genre poésie et je crée des haïkus. Et c'est aussi une manière de. C'est comme si je créais des ralentis, alors qui existent au cinéma. Et là, je voulais aussi. Distordre le temps, l'étirer le temps dans le livre et écrire des ralentis, c'est-à-dire faire des haïkus, c'est-à-dire que la phrase, le roman existe en chapitre compact, mais parfois en haïku, et c'est des phrases déstructurées. J'avais vraiment cette ambition-là, travailler la forme au tout départ, et même avant même de quand j'ai commencé à enquêter sur cet oncle congelé, en fait, et à faire sortir, à décongeler. La mémoire, puisque c'est la mémoire familiale que finalement je décongèle, j'avais cette ambition-là. Et puis après, effectivement, je voulais rendre hommage à tous les apprenants français et à la langue évidemment de Min-kyung qui peut dire. Alors là, je parlais de confetti, mais c'est une pluie de confetti poétique quand elle me parle. Elle peut dire tu me chipotes. Elle peut dire tu mensonges pour dire tu mens, tu me chipotes pour dire tu chipotes. Ou alors elle peut dire le diable est dans le bétail. Ou elle peut dire tu mensonges, je l'ai déjà dit. Tu me doutes.
Ça c'est très beau, oui.
Et du coup, c'est une sorte de, comme à la manière que j'avais travaillé pour la chronique du station-service, la neuve langue, et là, je me suis dit, mais en fait, la langue, dans l'erreur, elle est ultra poétique. La langue, dans l'erreur grammaticale, et quand si on sort de l'orthodoxie qui est prônée en France, et qui est proustienne peut-être, je rigole, je plaisante, c'est une petite provocation gratuite, mais pour sortir de l'orthodoxie qui pourrait pousser les écrivains, certains écrivains, à bien écrire, je voulais aussi rendre hommage à une langue qui est parlée par, en fait, finalement, tous les apprenants français ont leur propre langue poétique. Et quand ils font des erreurs, ça crée, voilà, moi, c'est à chaque fois, c'est une claque poétique que je me prends en écoutant ma compagne, en fait, qui distord les mots, qui propose des expressions à la place d'autres. Voilà, donc je voulais rendre hommage à cette langue, la travailler, enfin la retravailler, la lui rendre hommage. J'ai pas tout mis dedans, mais j'ai mis peut-être les plus emblématiques, les plus poétiques. Et c'est aussi, c'est aussi la langue que parlent quand les migrants arrivent en France. Ils parlent. Là, j'ai donné des ateliers d'écriture à des migrants. Ils parlent une langue qui n'existe pas en France, mais qui existe finalement. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Malheureusement, alors qu'est-ce qu'on fait de cette langue? Et je pense que cette langue, elle peut être figée. Moi, je veux pas que, par exemple, ma compagne, et je terminerai sur ça, je veux pas qu'elle apprenne le français bien. Je veux pas qu'elle parle bien le français, surtout pas. Malheureusement, elle a une nouvelle amie qui est professeure de français et qui est une intelligence artificielle qui s'appelle Anna et qui est en train de la corriger. Moi, je veux surtout pas la corriger. En fait, quand elle me dit, est-ce que correcte-moi, je dis, non, correcte-moi, mais non, j'ai pas envie de te corrector.
Non, parce qu'en plus de ça, c'est porteur d'un autre sens, et c'est ça qui fait aussi la richesse de ces expressions et de ces déformations. C'est une ouverture sur autre chose.
Oui, sur un monde qui échappe aux Français. C'est un monde. C'est une langue qui est habitée différemment, en fait, et qui nous échappe. En fait, si on vit pas avec un étranger, on comprend pas que oui, la langue française peut être torturé, enfin, je entre guillemets, mais de manière tellement poétique, c'est un plaisir d'écouter, de noter cette langue-là, en fait.
Alors, pour parler encore de la construction, Alexandre Labreuve, de Colquet, ce livre paru chez Vertical, on évoquait le fait qu'il y avait différentes parties, un rapport au temps particulier, et c'est également le cas dans cette partie qui correspond à la partie de confinement en Chine, où là, le temps va être, j'allais dire, d'une certaine manière, encore plus désarticulé, parce qu'il se ralentit au fil des jours qui passent, et en même temps, il s'accélère dans la recherche au travers des articles de presse. Et là, c'est une espèce de période... on évoquait le caractère fantastique avec les épisodes chamaniques, mais là, il y a une espèce de distorsion qui crée aussi une ambiance très particulière, et j'ai été particulièrement sensible à ce passage-là.
Je voulais pour rebondir sur la question précédente, c'est vrai que ce qui infuse le livre, c'est un principe poétique, en fait, que ce soit dans la langue de Ming Kyung, mais aussi dans tout le roman, parce qu'en fait, c'est vrai que là, en repensant à ce travail, je crois que depuis le début de mon travail d'écrivain, en fait, je veux désincarcérer le roman de ses carcans, en fait. Comme je veux désincarcérer, ou j'ai voulu désincarcérer la mémoire de Ming Kyung, j'ai voulu désincarcérer le roman. Je pense pas qu'il faut catégoriser, en fait. Un roman peut être multiple. Il peut être poétique, il peut être aussi bassement sanantoniesque, ou alors génialement sanantoniesque. Il peut être aussi faire des clins d'œil à la science-fiction. Il peut faire un roman est toujours multiple, comme une langue, en fait. Et je voulais vraiment rendre hommage à ça, en fait. Après, du coup, j'ai oublié la question qui était posée.
Ce qui m'a intéressé, c'est de voir à quel point ce passage qui correspond au confinement en Chine, qui va être donc à la recherche d'éléments factuels au travers des coupures de presse et du net, donc quelque chose qui est censé être très dur et très rationnel, à quel point l'écriture là est complètement, au contraire, quasiment fantastique, parce que déstructuré au niveau temporel. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que la partie fantastique, entre guillemets, qui vient ensuite, qui est une partie de recherche de chaman et d'expérience chamanique, là, a au contraire une écriture beaucoup plus traditionnelle et beaucoup plus orientée temporellement.
Oui, j'ai voulu jouer avec les couches temporelles, mais c'est vraiment, on en parlait au tout début, quand un souvenir nous frappe, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il surgit, on ne sait pas pourquoi il surgit. J'ai voulu vraiment, à la mémoire d'un cerveau, ce livre n'est pas un cerveau, quoique il pourrait Voilà, la métaphore est belle, mais à l'image d'un cerveau qui est frappé par des souvenirs, la structure du roman est aussi frappée par des couches temporelles qui sont multiples et aussi différentes et qui concernent les années 70, les années 30, les années 2000, les années 2018. Par exemple, si on prend l'exemple des années 70, mais je pense que c'est un passage aussi un peu rationnel, mais qui va m'amener à une transe, c'est quand j'enquête en fait journalistiquement, quand j'essaie de trouver des articles sur la mort de cet oncle congelé et que je fouille la bibliothèque publique de Toronto, quand je la fouille, quand je vais je pars sur au départ sur 20 000 articles parce que quand je n'ai pas le bon mot clé, quand je dis Kim congelé ou Coréen congelé, ça m'amène et que je définis une date aléatoire entre 65 et 75, en fait, ça m'amène à 20 000 résultats. Mais quand même, je les cherche, je les regarde, je les consulte compulsivement, je les consulte. Et du coup, ça crée une transe. Ça m'a amené dans une transe jusqu'au jour où j'ai, par hasard, je trouve le bon mot-clé. C'était le prénom de son oncle tronqué avec son nom, en fait, qui m'amène à 40 résultats et je sais tout de suite que je vais trouver des articles. Et j'en trouve 6, et ça m'amène aussi à une sorte de burn-out, parce que en faisant cette recherche, je tombe en lisant ces articles, en interprétant aussi ces articles, je tombe dans ce qu'était Toronto dans ces années-là, Toronto qui était miné par la mafia, qui était miné par les nazis, qui se réfugiaient à Toronto, qui était une ville très étrange. Je parle de Sin City ça pourrait être Gotham City aussi, et du coup je pars en transe sur de multiples interprétations possibles, des ramifications, sur l'explication de la mort de l'oncle congelé, où ça devient peut-être une affaire d'État. Mais je tout ça pour dire que donc je fais un burn-out, et ensuite l'enquête, Kim va prendre le relais de l'enquête. En fait, c'est-à-dire que si au début moi je l'amène, c'est ensuite Kim en fait. Et la mémoire que je fais surgir à coup de matraque, mais à coup de stylo que je prends pour une matraque en fait, au départ de mon livre, il va y avoir la transe de cette recherche en fait va me mener à un burn-out qui est au relais que Kim va prendre pour effectivement reprendre elle l'enquête de manière d'une autre manière, avec sa propre voix.
Je la torture, je la fais peur.
De voir dans ce passage, c'est que à quel point on a évoqué le fait que la mémoire individuelle était faillible et donc cette histoire familiale est un peu comme du sable qui glisse entre les doigts, mais la mémoire collective est également complètement faillible parce qu'au travers des articles de presse que vous allez pouvoir retrouver, on s'aperçoit qu'il y a des vérités très très différentes et que donc même ces éléments très factuels ne conduisent nulle part.
Alors c'est vrai qu'au départ on nage dans le brouillard de la et dans le flou de la mémoire familiale de Kim, de Min-kyung, et qui est une citadelle et qu'on ne peut pas pénétrer. Et je suis interdit. Il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie parce que la plaie c'est le silence. Le couteau c'est ma plume, c'est la relaxation que j'ai et la douleur. Elle est autant la douleur est un somnifère, c'est-à-dire qu'il y a anesthésie. Il ne faut surtout pas parler, pas toucher à ça. Mais en même temps, c'est un zombie qui ne cesse de ressurgir. La douleur, on la tue, elle ressuscite. Donc, c'est ce flou et ce brouillard dans lequel j'avance, qui est mémoriel au départ, il est constitué de douleur, mais aussi, je l'éclaire parfois de temps en temps, mais aussi que la recherche que je fais sur l'oncle congelé, ça propose d'autres explications qui réveillent d'autres douleurs, en fait. Et si la mémoire individuelle est faillible, oui, parce que on parle de douleur, si la mémoire est effectivement collective, elle est faillible parce qu'en fait, la société, l'idéal de la société, qu'elle soit française ou coréenne, c'est qu'elle soit parfaite. Mmh. Il faut pas toucher à l'image de la société française. L'image de la société française, elle rayonne, elle est issue des Lumières, mais la société coréenne, il faut pas la toucher. Et la mémoire de la famille, si on commence à soulever la boue, on va voir la boue. Mais ça va nuire à l'image de la famille, du pays, de la patrie. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que cette mémoire individuelle, elle est faillie. C'est un bloc, c'est un monolithe. On efface des traces de l'histoire, comme en Chine d'ailleurs, en fait. Il faut pas parler des fous en Corée du Sud, il faut pas parler du divorce, il faut pas parler de l'infidélité, il faut pas parler de tout ce qui déraille, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'effectivement, c'est le travail que je mène, en fait. Là, faire surgir des icebergs, non seulement de mémoire, mais aussi des icebergs qui heurtent finalement, mais la société coréenne dans le nez, qui heurte aussi une société, en fait. Mmh. Voilà. Mais malgré, la société coréenne, c'est pas le Titanic, mais c'est un bateau qui avance, qui heurte des icebergs, et le capitaine de ce bateau, il se met des œillères, en fait. Donc oui, la mémoire collective, elle est faillible parce que, on la couvre d'œillères.
Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette image qu'on a vue récemment dans les journaux de tous ces médecins faisant la queue pour donner leur démission en Corée.
Faisant la queue pour... Ah oui.
Pour donner leur démission à cause de la grève qui est en cours dans le système de santé coréen en ce moment.
Oui, de toute façon, depuis la fin de la colonisation du Japon, c'est-à-dire en 1945, la colonisation du Japon qui a été violente, dure, plus que dur, qui a été basé sur la torture, sur l'aspiration à la destruction de la coréanité et de tous les individus du Corée. En fait, le Japon a entre 1905 et 1945 envahi la Corée du Sud et aspiré le riz, les femmes, détruit les hommes, les a enrôlés parfois dans l'industrie, dans l'agriculture, dans l'armée, ou peut-être dans des expériences aussi parfois, comme en Chine du Nord, dans des expériences bactériologiques. Mince, j'ai encore perdu le fil. Attendez, je vais le retrouver. Pourquoi je parlais de ça? Oui, elle a été frappée, la Corée du Sud, après la colonisation du Japon, par une succession de dictatures. Et même aujourd'hui, qui est la Corée du Sud est certes un régime démocratique, mais qui avec des tendances fascisantes et puis même chamaniques. Le président en fait actuellement dans Corée du Sud, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut imposer aux Coréens le retour aux 80 heures de travail par semaine. J'exagère, je force le trait, mais c'est un peu ça en fait. Il veut remettre la Corée, alors qu'elle la Corée est quand même déjà très travailleuse et laborieuse. Il veut étendre les horaires de travail.
Les internes sont à 82 heures par semaine.
Ouais, 82 heures par semaine. Et en même temps, c'est moi ce qui me frappe aussi, ce qui m'a frappé, c'est il est fascisant parce que le drame d'Itaewon, je sais pas si vous vous souvenez de ce drame en fait,
oui, bien sûr,
Itaewon,
bien sûr.
Où en fait la Corée du Sud sortant du virus et du Covid, en fait, tous les jeunes vont sortir et vont se regrouper dans un lieu à Séoul qui s'appelle Itaewon. Et en fait, il va y avoir tellement de personnes que les jeunes, je crois qu'il y en a plus d'une centaine, je crois, vont mourir étouffés parce qu'écrasés. Alors, il y a deux questions qui se posent. Où étaient les flics? Où était la police? La police, elle cherche quoi? Elle était dans d'autres lieux parce que ils avaient bien conscience qu'il y avait quelque chose qui se passait à Itaewon et qui allait se passer parce que bon, ils n'ont pas du tout anticipé. La police, elle surveillait la sortie du président de la République parce qu'il était en train de boire, de faire la fête, je ne sais où. Et elle était en train de traquer les drogués. Puisque sous couvert, en fait, de lutte contre la corruption, il y a aussi le drame du suicide d'un acteur. En fait, si un acteur s'est suicidé, un des acteurs les plus connus de Corée du Sud qui a joué dans Parasite, qui est l'acteur principal de Parasite, en fait, s'il s'est suicidé parce qu'il a été mis sous pression. La drogue est un moyen pour lutter contre, pour rendre la société plus puritaine, mais aussi pour couvrir la corruption. En fait, on lutte contre la drogue pour ne pas lutter contre la corruption, contre d'autres choses. Bref. Et à Itaewon, quand le président vient avec sa femme, en fait, se prosterner et rendre hommage aux victimes, qu'est-ce qui se passe? Là, Min Kyung, ma compagne, me dit « Regarde bien sa femme ». Je dis « Oui, quoi ?» Eh bien, là, elle a un trait noir comme ça sous les yeux ou sur les yeux, je ne sais plus. Et c'est quoi? C'est sa chamane qui lui a dit « Pour se protéger des fantômes, des victimes mortes, c'est quand même, c'est dingue, il faut, pour vous protéger des victimes, les pauvres qui n'ont rien fait, en fait, il faut... Et comme ça, vous allez être protégé des fantômes de ce lieu-là. Donc c'est ça la société coréenne. En même temps, c'est 82 heures de travail, mais en même temps, il faut mettre des traits noirs pour se protéger des fantômes. Mais l'ancienne présidente de la République, qui s'appelle Madame Park, la fille du dictateur Park Chung-hee, elle est en prison. Pourquoi? Parce qu'elle avait une chamane qui lui écrivait des discours et qui aspirait tous les fonds Samsung finançait sa chamane, en fait, pour qu'elle crée je ne sais quoi, en fait, des centres équestres. Je crois que la chamane voulait que sa fille devienne championne équestre, championne d'équitation. Du coup, c'est ça la Corée du Sud, on n'en parle pas. Donc, on montre une société dormée, capopisée, etc. Mais en fait, c'est aussi une société qui déraille complètement. Et là, donc, la chamane voulait, pour construire un centre d'équitation, pour faire de sa fille, la chamane de l'ancienne présidente, pour faire de sa fille une championne d'équitation, déjà, il fallait de l'argent pour acheter les jurys, mais aussi pour faire construire un centre d'équestre en Allemagne. Ouais, c'est ce genre d'histoire, en fait. Là, je ne le raconte pas dans le livre, mais c'est aussi, on est entre l'absurde, la folie, parce que c'est une folie officielle, en fait, et aussi une tragédie, et des tragédies. Je voulais aussi montrer ça, en fait.
Oui, mais on le voit très bien dans Cold Case, et merci en tout cas Alexandre Labreuf d'en avoir parlé ce soir. C'est paru chez Vertical, et puis j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver pour un prochain livre. Merci beaucoup à vous, en tout cas.
Merci Alexandrine.
Roi du libertaire.
Hey! Si
je faisais une équipe de foot avec des dictateurs. Je prendrais Mussolini en avant-centre, mais pas Hitler dans les buts. Bah non, parce qu'il est trop petit. Pinochet serait ailier gauche et Mao serait ailier gauche, parce qu'il est de gauche. Et Pol Pot, lui, il serait soigneur. Oh, ça va, ça s'est remis tout seul, c'est bon, ça va, ça va. Staline carton rouge, Mao carton jaune, va te mettre au poteau, hop, exécution. Oh là 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 là, la jolie tête, hâte chat ou chez ce coup. Oh, oh. Où sont les supporters, où sont les adversaires, où sont les arbitres, oh, ils sont dans des cages.
Si tu fais du foot avec des dictateurs, n'oublie pas de t'échauffer, de t'hydrater, ouais. Sinon ta peau sera desséchée. Et c'est bientôt l'été. Wapapadam, wapapadam. Parapapapapapam, wapapadam, wapapadam.
Si je faisais un groupe de reggae avec des dictateurs, Kadhafi sera la guitare car il a eu les cheveux longs. On prendrait Saddam Hussein parce qu'il est bassiste.
Et Khomeini, il serait au clavier avec son bonnet Rasta.
Et Pol Pot, il ferait de l'orgue de barbarie. Wouh, je te reviens de la barbarie.
De l'orgue.
Allez, allez, solo de Pol Pot. Et tout le monde l'écoute, là. Chut, c'est le passage technique, là. Chut, chut.
Si tu n'applaudis pas, il va te mettre en prison. Et si tu l'applaudis, il va te mettre en prison. Où sont les spectateurs? Où sont les techniciens? Où sont les musiciens?
Oh, ils sont dans la fosse.
Si tu fais du reggae avec des dictateurs, n'oublie pas d'apporter tes papiers, ouais.
Ah non, mais c'est pas pour rouler, hein. C'est juste pour les plaisanter en
wapapadam, wapapadam.
Si on faisait un camp de vacances avec des dictateurs, on paierait pas ses cocktails avec des perles de collier. On les paierait avec ses doigts.
Allez Django, paye ta tournée. Maintenant vous êtes trop nombreux là.
La chanson du club, elle est en allemand. La Corée, faut savoir les pas. Le prof revient du Rwanda.
Où sont les profs de sport? Et où sont les géos? Et les filles en maillot?
Ah oui, ils sont sous la douche.
Si tu fais un camp de vacances avec des dictateurs, n'oublie pas d'apporter ton maillot.
Il y a plein d'activités dans l'eau.
Enfin, plutôt sous l'eau.
Monsieur, il a mangé de l'eau.
Ouais. Wow.
Si on faisait de la cuisine avec des dictateurs.
Ah non, merci, moi ça va, j'ai pas très faim.
Si on faisait un parc d'attractions avec des dictateurs.
Wow. Oh, c'est marrant, y'a pas la queue en montagne russe.
Si on faisait de la haute couture avec des dictateurs.
Ah, le col marron, il est un peu trop tiré.
Et si on faisait une démocratie avec des dictateurs. Ouais.
Non, non.
On peut jamais rien faire avec des dictateurs. Y'a toujours quelqu'un qui finit par se blesser. Ouais.
Avec la conjoncture actuelle,
ils auront du mal à se recycler.
Enfin quoi que, parce qu'ils ont vraiment des super postes à la NPE des dictateurs. Là en ce moment ils ont un poste pour un génocide en Afrique. Enfin, ah bah faut aimer l'Afrique, hein.
Ouais, attends, sinon il y a toujours l'Europe de l'Est, hein. Faut attendre 10-15 ans que ça se décante un peu. Faut s'en mettre patience. Faut s'en mettre tout court, quoi.
C'est toujours Radio Libertaire, toujours 89,4 MHz. On vient donc de parler du très bon livre d'Alexandre Labruf qui s'intitule Cold Case, qui est paru chez Vertical. Et si cet ouvrage vous a intéressé, sachez qu'il va y avoir d'ici peu de temps une lecture vidéo musicalisée qui aura lieu à la Maison de la Poésie, et ça ce sera le 23 avril. C'est très chouette ce que fait la Maison de la Poésie, d'organiser ainsi des rencontres avec les auteurs, et là, pour cet ouvrage particulièrement, je vous recommande d'aller retrouver Alexandre Labruf, qui sera avec Olivier Azman et Xavier Courtex. Ce sera à la Maison de la Poésie, ce sera le 23 avril, et il y sera question de Cold Case. Voilà, cette parenthèse étant faite, nous allons maintenant retrouver donc Gérard Guégan pour sa chronique consacrée à la poésie, justement. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz, et c'est la chronique de Gérard Guégan que nous retrouvons aujourd'hui pour parler de poésie.
Alors moi, ça me fait très plaisir qu'il y ait une chronique consacrée à la poésie avec deux ouvrages au programme. Un de Jérôme Leroy qui s'intitule « Et des dizaines d'étés dorés » qui est paru aux éditions La Table Ronde. Bon, Jérôme Leroy, on l'a reçu à plusieurs reprises dans cette émission, vous connaissez. Et le second, c'est le premier volume des œuvres de Gérard Arseguel que je ne connais pas et donc que tu vas me faire découvrir. Alors tu vas commencer par quoi ? Par qui ?
Je vais commencer par Gérard Arseguel, d'une part parce qu'il a été mon ami de jeunesse, il a été celui qui m'a initié, j'allais dire, en poésie, puisque la première fois que je l'ai connu, la première fois qu'on s'est rencontré, c'est juste après 1958, c'est-à-dire la grande époque anti-gaulliste, avec, etc., etc. Donc tout le monde était très à gauche à Marseille, très extrême gauche même. Et Jean-Jacques Schulz, que j'avais croisé quelques semaines auparavant, ça s'est fait très vite, m'a présenté ce type, qui était d'ailleurs d'une grande beauté, les grands cheveux bouclés, tout ça, etc. Et qui m'a parlé pendant une heure de deux poètes qu'il fallait que je lise absolument. Alors moi, évidemment, Éluard, Aragon, Desnos, tout ça, on le savait parce que ça fait partie du B.A.B.A. Mais là, il me parle de Marcel Schwab et il me parle de Rilke. Rilke, vaguement, ça me disait quelque chose, mais j'avais jamais lu. Et c'est grâce à lui que j'ai lu, entre autres, donc, le livre de Monel de Schwab. Et donc, j'allais faire pendant 10 ans mon livre d'approche amoureux. Chaque fois que je tombais amoureux d'une femme, je lui offrais un exemplaire du livre de Monet. Voilà. Donc Arseguel est mort. Il est mort il y a bientôt 4 ans, même il y a sûrement 4 ans. Je crois que c'était en février 2020. Et il y a autour de lui toute une tribu, j'allais dire, mais un groupe qui n'en est pas un, mais en tout cas suffisamment d'alliés, d'amis, d'admirateurs pour se réunir et publier donc le premier volume de ses œuvres, qui ne sont pas dites complètes, mais qui sont dites œuvres, tout simplement, qui paraissent chez Maitré Éditions, qui est un petit éditeur, j'imagine, mais très courageux, et qui couvre en 600 pages ce qu'il a pu reproduire, en tout cas ce qui a été retrouvé, parce que tout n'est pas retrouvé, hein, toujours quand on fait des œuvres complètes, 1957-1987. Donc je l'ai ouvert, j'ai commencé à le feuilleter, et puis j'ai vu un texte qui me disait quelque chose qui s'appelle, je crois, L'arrivée sur le littoral. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui me parle, ça. Et. Pardon, je tourne les pages, donc c'est toujours un peu plus long, mais vous m'excuserez. Et page 374 de l'arrivée sur le littoral, voilà ce que je lis. Hier soir, la foudre est entrée dans la chambre par la fenêtre entrouverte, tandis que nous ouvrions une boîte de thon. Point. Ce matin, Gérard Guégan a disparu. C'est quoi ça, cette histoire ? Je me suis rappelé, tout est revenu, un pan de l'histoire qui s'était un peu estompé. C'est qu'en 10, donc je l'ai rencontré en 58, début 59, janvier ou février 59, et quelques temps plus tard, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais cet été ? Il me dit, je cherche du boulot. En général, le boulot, c'était d'aller faire l'auxiliaire à la poste. Et je lui ai dit, moi, on me dit qu'il y a un truc formidable, c'est Air France, qui engage du personnel pour servir sur les aéroports. Il m'a dit internationaux, non, je dis nationaux. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous les deux recrutés par Air France pour juillet-août 59 à Bastia, pour être, qu'on a donc au bout de quelques jours loué une grande pièce qui est devenue une sorte de chambre avec, en la séparant par des draps pendus avec des pinces à linge, c'était assez. Et lui est tombé amoureux d'une fille de là-bas, et moi aussi, mais moi, mon père m'avait dit, fais gaffe, parce que là-bas, c'est le mariage. Donc je crois que la veille du jour où il écrit ça, je lui annonce que je me tire parce que par la fille avec qui j'avais passé quelques jours en plus dans la montagne, elle me dit, mon père et mon oncle veulent te connaître, ils vont venir demain te voir.
Oh là !
Là, je me suis dit, non, je reste pas, moi j'en ai rien à foutre. En plus, je détestais ce que je faisais à Air France, c'était sans intérêt, en dehors de de Gérard, c'est bizarre de dire de Gérard, on a l'impression de parler de soi, et en dehors de ça, bon, donc je suis parti, voilà. Mais je l'avais oublié, et et c'est un texte qui a donc paru, si j'ai bien compris, dans les 10 ans à peu près après, qui a été écrit en 59, maintenant on le sait, mais qui a paru petitement ailleurs, voilà. Donc, est-ce que c'est pour ça que je parle de Arseguel ? Oui, entre autres, ne le cachons pas, parce que ça m'a évoqué d'excellents souvenirs et des moments où j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. Par exemple, là, il lisait Ungaretti, Giuseppe Ungaretti. Et donc, je veux dire, ça pour moi, c'était du grec ancien, je ne sais pas ce que c'était. Je veux dire, je pensais être un garçon qui avait beaucoup lu, j'avais très peu lu, j'avais lu ce qu'il fallait lire, mais les en dehors, les marginaux, je connaissais pas.
Je ne sais plus combien ça fait de mois qu'on s'est rencontrés, toi et moi, mais depuis tous deux on se balade, on ne prend jamais le vent debout. C'est lui qui pousse et on s'en fout. Mon camarade, en avril tous les prés sont verts, ils sont tout blancs quand c'est l'hiver. En mars ils sont en marmelade, mais il y a pour deux vagabonds un coin des tables où il fait bon. Mon camarade, on se souviendra du Balthazar qu'on a fait ce soir par hasard avec un vieux corbeau malade. On a tout mangé, même les os, et tu vas roupiller bientôt. Mon camarade, là la première étoile qui luit, les grenouilles dans le fin fond de la nuit en chœur lui font une sérénade. Les grenouilles ont des petits points d'or dans les yeux, tu le savais, tu dors. Mon camarade, je me demande certains jours pourquoi nous poursuivons toujours cette éternelle promenade. Oui, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le bonheur qu'on avait rêvé. Mon camarade, un jour on sera tout ébahi, on arrivera dans un pays plein de fleurs, d'oiseaux, de cascades. On sera reçu à bras ouverts, il y aura des carillons dans l'air. Mon camarade, il y aura une petite blonde pour moi et puis une petite brune pour toi qui trouve que les blondes c'est trop fade. Elles nous trouveront bien à leur goût et diront venez donc chez nous. Mon camarade, on trouvera ça, mais oui mon vieux, c'est peut-être là-haut dans les cieux. Dame, faudra pas rester en rade, on a tant marché ici-bas qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mon camarade,
voilà, donc ça a été ça, et quelques lignes plus bas, quelques vers plus bas, apparaît la clé pour moi, évidemment, c'est la fille avec son nom et son prénom que je fuyais et que je devais retrouver à Nice, et donc lui lui fait dit ceci, ça devient vraiment un roman. Hein. Voilà. Il dit, j'ai rencontré je ne vais pas dire son prénom, XXXXXXX, je mets 4X, donc il y a un prénom double et un nom de famille double. Je lui ai obtenu une place pour Nice dans la cabine du pilote. Il raconte une histoire, ça continue, puisque moi je lui ai dit, Marseille c'est pas terrible, on se retrouve à Nice si tu veux, ça peut être rigolo. Voilà. Et donc elle serait partie, elle aurait, serait pris cet avion, alors ça je n'ai aucun souvenir. Et c'est peut-être lui qui l'invente, à savoir. Il est là tous les droits, c'est le poète.
Oui.
Alors, voilà ce que je voulais dire. Et à part ça, c'est un grand poète, vraiment un grand poète, dont les dernières années de sa vie, on avait repris contact, parce qu'il savait que j'étais à ce moment-là, non pas dans le, à Nîmes, mais dans le Gers, et que lui était ariégeois. Donc il a commencé à, m'envoyer de ses livres, des anciens livres et tout ça, que je, dont un qui m'a beaucoup touché, parce qu'encore une fois, c'est... le petit bois qu'aimait Gérard, ça, ça ne peut pas ne pas parler à un Gérard quelconque qui dirait ça. Quoi.
Bien dit, sûr.
Voilà. Et c'est... Et la dernière fois vraiment que je l'ai vu, c'était en 1979. Il est venu à Paris avec Jean-Jacques Vitton, autre poète marseillais, nous voir au Sagittaire, parce qu'on lui avait, je lui avais dit, tu sais, on a décidé de commencer à publier des poètes. Et on avait publié un type qui s'appelait Jean-Philippe Buteau, un livre qui s'appelait Boogie, et qui était un très joli livre. Et donc, ils sont montés tous les deux. L'idée, c'était qu'on allait publier, en tout cas pour Gérard, un livre qui serait appelé Décharge. Et le jour où il arrive, c'est le lendemain du jour, si je puis dire, où Jean-Claude Fasquelle, patron de Grasset, m'a annoncé au comptoir d'un bistrot proche de, du Sagittaire, que c'était fini pour le Sagittaire, que Hachette retirait ses billes, Grasset évidemment ne pouvait qu'obtempérer, et donc c'était la fin. Donc c'est pour ça que ce livre-là, Décharge, a paru chez Gallimard, chez Bourgois, la même année. Voilà, on sait tout, j'espère, sur ça. Alors,
Donc c'est une œuvre considérable, si le premier volume fait déjà 600 pages.
Oui. Je n'ai pas tout lu, il faut être honnête. Parce qu'en plus, les poèmes, ce n'est pas fait pour être lu totalement.
Non.
Parce que quel que soit le poète, tôt ou tard, le poème qu'on aimait le plus est supplanté 20 pages, 50 pages plus loin par un autre. Donc c'est un mélange comme ça, la lecture des poèmes. Ça peut se lire dans tous les sens en plus.
Ça se grappille.
Pardon ?
Ça se grappille.
Voilà, c'est le vrai verbe, c'est grappiller, c'est un grappillage. Et donc, fort de tout ça, j'en termine avec Arseguel, si je puis dire, on n'en terminera pas comme ça. J'en termine avec Arseguel en disant, donc ça c'était l'ami de jeunesse, c'était le sud, et là-dessus apparaît le roi. Mmh. Et le roi, c'est quelqu'un que m'a présenté là aussi, un écrivain avec lequel je crois qu'il est fâché désormais, qui s'appelle Patrick Besson. Et Patrick Besson me parle d'un jeune type qui est à Rouen, jeune prof, et que ça serait bien qu'on le rencontre et tout ça. Alors là aussi, je me rappelle de la conversation plus ou moins avec Besson dans un bistrot à Paris, mais je ne me rappelle pas vraiment d'avoir rencontré Jérôme Leroy. En revanche, je l'ai rencontré plus tard parce que j'ai découvert un poète. Et pour moi, c'est un très très bon poète, très grand, même un grand poète, on peut dire. C'est sûrement pas la poésie de Gérard Arseguel, c'est plus la poésie de Bukowski ou de Hardelet. Je pense souvent, par exemple, à Balch et Temporel. Le Balch et Temporel, c'est tout à fait cette nostalgie du passé qui se mélange au présent avec des formes, du soleil, des femmes, des jeunes filles, voilà, tout ça, c'est cette poésie nourrie de simplicité et d'émotion. Et ça, d'une certaine manière, ça rejoint aussi ce que disait Arseguel, où j'ai retrouvé un texte sur lui dans un journal parisien. Bon, je ne le retrouverai pas. Il dit « J'écris simple pour faire compliqué » ou quelque chose comme ça.
Oui.
Et c'est ça. Et le roi, il y a ça. Et donc, le dernier des dizaines d'étés dorés. Continuons dans le récit des coïncidences. Ça n'est pas fini. Page 130 de ce livre recommandable à tous et pour toutes, des dizaines d'étés dorés. Un texte s'appelle « Mes petites amoureuses ». Évidemment, c'est de nouveau, moi je le prends comme une histoire parce que, un, j'étais l'ami depuis le début de Stash. Ensuite, je sais que c'est dans ce film que Schull, qui vient assister, Schull que j'ai présenté à Eustache, et Eustache que j'ai présenté à Schull, et Schull va venir pour voir le tournage et va tomber amoureux d'Ingrid Cavan, avec laquelle il vit désormais, avec laquelle il a, et pour laquelle il a écrit un livre qui a eu, je crois, le prix Goncourt, c'est ça, c'est Ingrid Cavan qui a eu le prix Goncourt, non?
Je crois, oui.
Ouais, je crois, je suis pas sûr. Les prix, ça m'intéresse moins. Mais bon, c'est assez drôle quand même. De nouveau, je retombe là-dessus. Et bizarrement, là, on peut dire que le lien se fait avec la poésie de l'un et de l'autre, parce que c'est aussi nostalgique que précis. C'était un été 76, l'année de la calicule. C'est la campagne française. Ce sont des vacances à la ferme, mais en 20 minutes de vélo, on est à la plage. On a mis une carte à jouer fixée par une pince à linge sur la roue avant. Il est temps de connaître les premiers élans du cœur. 45 ou 46 ans après sa sortie, on regarde mes petites amoureuses dans un monde dystopique où les visages disparaissent. Alors, forcément, on pleure. Voilà. Et ça, c'est tout à fait la poésie que j'aime chez le roi. Les mots, c'est comme quelque chose qui serait, en dents de scie, mais en dents de scie, c'est négatif, c'est en creux et en bosse. Voilà.
Nous aimions à cette époque bleulette de rond, on mangeait des œufs à la coque et du mouron. Un soir tu me sacras bleulette, blondelette de rond, descends ici que je te fouette en mon giron. J'ai dégueulé ta bandoline, noire laide rond, tu couperais ma mandoline au fil du front, poids mes salives desséchées. Roulette rond, infecte ton corps, les tranchées de ton sein rond. Mes petites amoureuses que je vous ai plaquées de fouffes douloureuses, vos tétons laids, piétinez mes vieilles terrines de sentiments, hop donc soyez-moi ballerine pour un moment. Vos omoplates se déboient, oh mes amours, une étoile à vos reins qui boit, de tourner vos tours, et c'est pourtant pour ces éclans que j'ai rimé. Je voudrais vous casser les hanches d'avoir aimé.
Moi, j'aime beaucoup la poésie de Jérôme Leroy, je le lis aussi dans ses romans, mais autant j'aime cette écriture et ces textes-là qu'on retrouve parfois dans certains romans, parce que Vivonne était un roman absolument magnifique, et j'aime plus cet aspect-là de Jérôme Leroy que le côté polar dur comme Les derniers jours des fauves, qui a mieux marché pourtant. Mais je préfère son écriture poétique. Vraiment, de très loin, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Et c'est dommage qu'il ne soit pas reconnu à ce titre-là.
Or, moi, je suis persuadé qu'un jour, plus tard possible, lorsque la mort sera passée, Jérôme aura droit lui aussi à ses œuvres complètes poétiques. Voilà. Voilà ce que je voulais dire.
Alors,
sur ces poètes qui ont été et qui sont un moment de mon existence. Je m'excuse d'avoir insisté là-dessus.
Non, mais pas du tout. C'était passionnant. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que Et des dizaines d'étés dorés, Jérôme Leroy, c'est paru aux éditions La Table Ronde.
Oui. Je croyais que tu l'avais dit au début, camarade.
Ah bah, voilà, on répète. Comme ça, les gens pourront l'acheter plus facilement.
Je suis persuadé que, par exemple, Jérôme Leroy, pour en terminer là-dessus, il aurait été, on l'aurait connu dans les années 50, 60, il n'était pas né, mais il aurait été de cette génération-là, il aurait été avec nous, parce qu'il y avait comme ça, il y a à Marseille, par exemple, un métro, un tram qui était le premier tram qui a existé à Marseille longtemps, le seul, il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'était un tram qui partait d'une gare qui était, une station de métro qui existe toujours, c'est la gare de l'Est, et qui montait jusqu'à la gare de la Blancarde, souvent figurée dans les films, parce que Marseille, c'est difficile à filmer, la gare de la Blancarde, c'est très facile. Et on remontait, il y avait Schull, il y avait Jacques Lévy, il y avait Leonardini, tout ça, moi je chante pas, je chante faux, mais on chantait des chants russes, parce que, évidemment, on attendait que les chars russes viennent en France. Non, mais ça, c'était une époque. Les gens étaient à penser comme Céline, c'est les Chinois arrivent, nous on disait, vivement qu'arrivent les Cosaques. Ah. Et qu'on en termine avec cette farce. On était vraiment con, mais c'était bien. Voilà, ma chère, cette fois-ci c'est bien terminé.
Eh bien, rendez-vous à la prochaine chronique. Merci en tout cas de ces deux livres de poésie, ça fait du bien de temps en temps. Merci, à bientôt.
Eh bien, à bientôt.
J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand Lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama.
la fin de cette émission d'Idéaux et Débats. Je vous rappelle qu'on a parlé de plusieurs ouvrages aujourd'hui. Nous avons parlé donc du livre d'Alexandre Labruf intitulé « Cold Case » et qui parut aux éditions Verticales. On a parlé également avec Gérard Guégan de « Poésie » avec le premier volume des œuvres de Gérard Arcegel et le très beau livre « Et des dizaines d'étés dorés » de Jérôme Leroy. Voilà, c'était l'émission de ce jour. On se retrouve bien sûr dans deux semaines. Dans les émissions à venir, on parlera de beaucoup de choses. On parlera de fleurs, de pouponnières d'Himmler, de médecine non conventionnelle, de nouvelles aussi. Enfin, plein de choses à venir. On se retrouve donc dans deux semaines. Mais d'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire et portez-vous bien.
Écris quelque chose de joli, des vers peut-être ou de la prose, un instant de rêve et de pause dans le tumulte de la vie. Écris quelque chose de joli, quelques mots de bleu et de rose, un moment de métamorphose que tu nommerais l'embellie. Verse un peu de joie dans nos cœurs, avec des riens qui vous délivrent, un peu d'espoir et de douceur, on en a tant besoin pour vivre. Écris quelque chose de joli, l'odeur des lilas et des roses. Chante-nous la beauté des choses dans les yeux de l'homme ébloui. Écris quelque chose de joli. L'aube entre nos bras qui repose, la seconde où lèvres mi-closes, le plaisir vient comme la pluie, l'embellie. Ces mots à peine murmurés dans la tendresse qu'on devine, baignés de musique angevine, le temps sur nous s'est refermé. Je l'aurais voulu si joli, ce poème en bleu et en rose, cet instant de rêve et de pause dans le tumulte de la vie. Je l'aurais voulu si joli, mon amour en qui tout repose, et que nul ne puisse ni n'ose douter que tu es dans ma vie. L'embellie.
Ce cri qui n'a pas la rosette.
cette parole de prophète. Je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Pas vrai, maître?
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Douze ans déjà, petit garçon. Tu viens de quitter ta maison et tu te sens comme en vacances. Tu emportes quelques chansons apprises comme des leçons et tu suis les routes de France. 12 ans déjà et tu t'envoles juste à la sortie de l'école emporté par des idées folles. 12 ans déjà, tu es si grand, tu as choisi l'air du printemps, la géographie sans boussole. Tes parents ne sont pas très loin, quand tu voudrais être orphelin, ton roman s'écrit dans ta tête. Mais tu te souviens, le goûter, la toile cirée bien tiré sur la table, c'était la fête. 12 ans déjà, quand on est grand, on ne veut pas être un enfant. Nos livres non, puis leurs images. On suit des nouvelles, on s'affaire, on fait semblant d'être son père. En quelques jours, on prend de l'âge. Vagabondant, petit garçon, sans avoir quitté tes chaussons sur les sentiers de l'innocence, tu portes valise trop grande, un linge au parfum de lavande, freinant tes rêves en partance. 12 ans déjà, petit garçon, quand la vie s'ouvre à l'horizon, on veut suivre ses pensées folles. Mais à 12 ans, quand retentit la cloche à l'heure de la sortie, c'est juste pour quitter l'école.
Les femmes découvrent